Dans l'émission Zone Libre aujourd'hui, nous parlons de l'association ARDA avec Marie Puister et Laurent Knepfler. Marie Puister est présidente, Laurent Knepfler membre, et ils sont tous les deux très investis dans l'association. Ils nous font connaître cet organisme local, l'ARDA, accueil des réfugiés et de demandeurs d'asile à Haguenau. Une association qui contribue localement à l'accueil, l'accompagnement et l'aide à l'inclusion sociale de demandeurs d'asile et de réfugiés pendant et après la procédure de reconnaissance du statut de réfugié. Il contribue également à l'information, à la défense du droit d'asile. Madame Puister, Monsieur Knepfler, bonjour. Madame Puister, vous êtes présidente de l'association ARDA et Monsieur Knepfler, vous êtes membre de l'association. Alors bien évidemment, vous allez nous parler de cet organisme, Madame Puister.
Je vais démarrer. Donc l'association ARDA, ARDA déjà veut dire accueil des réfugiés et demandeurs d'asile à Haguenau. C'est une association qui a été créée il y a maintenant plus de 2 ans. Alors, comment est née cette association? Si vous vous en souvenez, en septembre 2015, il y avait eu l'appel du pape aux différentes paroisses catholiques à accueillir des réfugiés. Il y avait eu aussi la mort du petit Alan qui avait beaucoup ému les populations. Et donc, à la suite de ces deux événements, en octobre 2015, des paroissiens catholiques et protestants de Haguenau se sont retrouvés et se sont posé la question de ce qu'ils pouvaient faire en faveur des réfugiés sur Haguenau. Alors, le 21 janvier 2016, s'est créé d'abord un collectif qui a rassemblé ces premières personnes, mais aussi déjà au-delà des paroisses, d'autres personnes qui étaient sensibles à cette question-là. Et puis très rapidement, on s'est rendu compte que pour pouvoir être efficace, il serait utile de se constituer en association, ce qu'on a fait donc le 11 février 2016. Aujourd'hui, cette association compte une centaine de membres. Donc, c'est une association qui a grandi très très vite.
L'ARDA est une association locale.
Alors, c'est une association sur Haguenau, mais qui très rapidement a dépassé un petit peu le cadre de la ville de Haguenau. D'une part par les bénévoles qui nous ont rejoints et qui viennent d'ailleurs que de Haguenau, hein, des environs de Haguenau, parfois même de très très loin. Et puis aussi parce que des personnes que nous avons rencontrées, accompagnées, ont été hébergées par l'association en dehors de Haguenau. Donc notre périmètre a priori c'est Haguenau, mais les événements font que on dépasse un petit peu ce cadre.
Mais dans nos statuts, nous précisons bien que nous avons une action locale. Et je me souviens encore d'une intervention dans un lycée de Haguenau où des élèves nous ont demandé si nous avions des ambitions de grandir, des ambitions carrément nationales. Et nous avons répondu en rigolant un peu que pas du tout, mais que nous nous réjouirions si en d'autres lieux naissaient d'autres associations du même genre.
Et vous fonctionnez avec des bénévoles uniquement?
Oui. Nous fonctionnons uniquement avec des bénévoles et uniquement financièrement grâce à des dons aux cotisations de nos adhérents. Aucune subvention publique ne nous est allouée. C'est aussi un choix qui est fait par l'association de manière à garder notre liberté d'action.
Vous êtes à l'écoute de Phare FM Haguenau. Nous parlons de l'association ARDA avec Marie Puister et Laurent Knepfler. Donc, Monsieur Knepfler, vous aussi, vous êtes bénévole et en tant que membre de l'association, qu'est-ce que vous faites?
Moi, je peux vous citer une journée type.
Par exemple?
À 8h30, coup de fil, on va être en manque de couches et de lait pour le bébé. Donc, on programme un déplacement dans une grande droguerie de l'autre côté de la frontière pour remplir un coffre de couches pour 2 familles et pour faire le plein de lait pour quelques semaines. Après ces coups de fil, oui, il y a un problème avec la Sécu. La Sécu dit que nous n'êtes pas à 100%. Est-ce que tu peux voir? Placement à la Sécu. Après, encore un coup de fil. Oui, je suis en route vers l'école pour inscrire le garçon de la famille qui vient d'arriver. La directrice m'a dit qu'il faut une attestation d'assurance. Qu'est-ce que tu peux t'en occuper? Je vais sur le site de la MAIF et j'imprime l'attestation d'assurance. Et voilà comment ça continue. Il n'y a pas de jour sans.
Presque un plein temps.
C'est pas un plein temps, mais heureusement qu'il y a des retraités pour être disponibles aux heures de bureau.
On est en plein dans le sujet, là. Alors, par quel organisme vous passez pour trouver les personnes que vous allez accueillir ?
C'est très variable selon les personnes. Pour certaines personnes que nous accompagnons, nous les avons rencontrées via directement la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile qui nous a contactés, donc qui est l'organisme officiel qui gère les réfugiés qui arrivent, donc pour nous sur Strasbourg. Pour d'autres, nous avons été mis en relation par l'intermédiaire de la Fédération d'entraide protestante, qui est le volet caritatif des églises protestantes. Hein. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Pour d'autres encore, c'est les opérateurs sociaux qui sont présents sur AGNO, donc ADOMA ou ASF 67, qui nous ont mis en contact avec ces personnes. Par exemple, tout récemment, pour assurer des cours de français auprès d'une dame géorgienne qui ne peut pas quitter son domicile. Et donc, des bénévoles d'Arda se rendent à son domicile. D'accord. Pour lui permettre d'apprendre un petit peu la maîtrise de la langue française. Voilà, donc les situations sont très différentes. Mmh. Et puis, finalement, aujourd'hui, c'est aussi par les personnes que nous avons déjà hébergées et D'accord. accompagnées que nous entrons en relation avec d'autres réfugiés.
Actuellement, vous vous occupez de combien de personnes et d'où est-ce qu'elles viennent ?
On héberge ou on a hébergé 3 familles dans un appartement qui est mis à disposition de l'association. Hein, donc on dispose d'un 2 pièces. Dans ce 2 pièces, 3 familles se sont déjà succédées aujourd'hui. Voilà, 3 familles syriennes. Mais nous accompagnons d'une manière ou d'une autre, je dirais une bonne vingtaine de personnes ou de familles, qui sont d'origine diverse, donc des Syriens, des Irakiens, des Ukrainiens, des Albanais, mais des personnes aussi qui viennent d'Afrique, Côte d'Ivoire, Guinée, Togo, une personne afghane qui est accueillie dans une famille, et cette famille a fait appel à nous pour qu'on puisse les accompagner un petit peu dans leur démarche.
Dans ce dernier cas, c'était, comment vais-je dire, un accompagnement des accueillants qui n'ont pas d'expérience de l'accueil ni de toutes les formalités administratives. Donc c'est déjà, c'est un grand mot, les faire bénéficier de notre expérience ou de notre expertise. Mais ça, c'est un peu ambitieux.
Oui, mais je crois qu'en même temps, c'est une aide précieuse pour cette famille qui accueille, de se sentir soutenue finalement par une structure. Et Laurent évoquait tout à l'heure le fait que voilà, notre action est circonscrite plus ou moins à AGNO et qu'il serait souhaitable que d'autres collectifs se créent ailleurs. Et de ce point de vue-là aussi, je pense qu'on a un rôle à jouer pour épauler des collectifs qui sont en train de se créer. C'est ce qui s'est passé tout récemment à Grisse, où un collectif est en train de se monter et on a fait appel à Arda pour leur donner des conseils, les accompagner éventuellement dans la constitution de ce collectif.
Ce qui est très intéressant dans le cas de ces personnes de crise, comme des personnes qui accueillent AGNO, c'est qu'il ne faut pas se sentir seul. Les personnes de crise nous ont été très reconnaissantes pour la présence que nous avons assurée, pour la solidarité que nous leur avons promise. Je pense à la famille qui accueille un Afghan à AGNO. Ce qui est important, c'est que cette famille ne se sente pas seule. Parce que l'accueil de réfugiés est quelque chose de finalement très lourd, qu'on ne peut pas assumer tout seul.
Vous êtes à l'écoute de Phare FM Haguenau. Nous parlons de l'association Arda avec Marie Pfister et Laurent Knepfler. Très concrètement, quelles sont toutes les procédures mises en place quand on accueille une famille de réfugiés ou un réfugié ?
Il suffit de prendre la première famille que nous ayons accueillie. Nous venions de décider que nous allions monter un collectif. Nous n'avions pas encore fait le pas de l'association. Quand on a un coup de fil d'un membre de l'association qui est en lien avec la FEP, qui nous dit « Il y a à Beyrouth une jeune femme avec 2 enfants. Si elle a un point de chute, elle aura le visa. » On a dit « On prend. » On avait un appartement de 2 pièces, pas grand, tout petit, mais vide. Donc Marie a rassemblé tous les emails dont elle disposait et a envoyé l'appel. Il faut équiper un logement. 3 jours, le logement était équipé, lit, literie, table, chaise, armoire, frigo, gazinière, machine à laver, la serpillière, l'épluche légumes, la passoire, tout y était.
C'était efficace.
Oui, en 3 jours, nous avons découvert à Agno un réservoir de solidarité énorme. Ensuite, la famille est arrivée, il a fallu les chercher à Strasbourg, arrivée à Agno. Une autre famille avait préparé un dîner pour les accueillir. La famille a été menée à son appartement et dès le lendemain, d'autres membres de l'association inscrits les enfants à l'école. Préparer les cours de français pour la maman, préparer les démarches à la Sécu, préparer les démarches à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile à Strasbourg, enclencher les démarches à la préfecture. Et pour toutes ces actions, des personnes se sont trouvées, si bien que jamais une personne n'a été chargée, même loin de ses possibilités.
Alors après tout ça, ma question est, faut-il une qualification spéciale pour être bénévole à l'ARDA ?
Alors on avait la chance d'avoir dans l'association donc une personne qui a été présidente de la CIMAD, président de la CIMAD, donc qui avait une connaissance de toutes ces problématiques des réfugiés. On a un couple dont Laurent fait partie aussi, qui avait accueilli ailleurs, il y a à l'époque des boat people, également des réfugiés. Donc on avait cette expertise-là. Pour le reste, ça a été vraiment une formation sur le tas, au gré des circonstances, on va dire. Et donc, on a appris avec les personnes que nous avons accompagnées dans des domaines très divers, comme les démarches administratives, les démarches juridiques, les cours de français, puisque les bénévoles qui sont engagés là-dedans n'étaient pas forcément formés aux cours de français langue étrangère. Voilà, donc on a découvert tout ça au fur et à mesure de notre action.
D'accord. On a quand même quelques enseignants dans l'association qui, assez naturellement, sont allés vers l'enseignement du français langue étrangère. Mais là aussi, beaucoup de personnes se sont relayées, si bien que ça n'a jamais été une charge lourde pour une personne unique.
Et puis, je crois que ce qu'on a découvert aussi, c'est de apprendre à respecter, comprendre les différences de culture. C'est peut-être aussi une des premières difficultés à laquelle on ne s'attend pas forcément. Il y a le barrage de la langue, mais il y a aussi des manières différentes d'appréhender le monde et le respect de cette manière différente d'appréhender le monde, mais aussi de se projeter dans l'avenir, etc. C'est quelque chose qu'on apprend encore aujourd'hui à respecter.
Vous êtes à l'écoute de Phare FM Haguenau. Nous parlons de l'association ARDA avec Marie Pfister et Laurent Knepfler. Que ces personnes doivent s'intégrer chez nous, qu'est-ce que ça implique ? Est-ce qu'ils ont à s'intégrer ou est-ce que nous, on a...
Alors, ils ont évidemment à s'intégrer puisqu'ils ont rejoint la France. Ils ont d'ailleurs la volonté de s'intégrer, ils le disent de manière tout à fait claire. L'intégration, elle passe par la maîtrise de la langue, nécessairement. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Et l'intégration pour les personnes qui vont en avoir la possibilité, c'est-à-dire les personnes qui obtiennent le statut de réfugié ou qui obtiennent un autre titre de séjour s'ils n'ont pas pu obtenir le statut de réfugié, c'est de pouvoir trouver du travail. Ce sont les deux points essentiels pour que l'intégration soit possible. Dans ce que nous mettons aussi en œuvre, eh bien, c'est le contact régulier avec des personnes françaises, puisque l'une des difficultés des demandeurs d'asile qui arrivent en France, c'est de pouvoir être en contact avec la population française et pour nous, la population agnovienne. Donc, tous les mois, nous organisons ce qu'on a appelé un café-rencontre. Donc, une fois par mois, le samedi après-midi, qui donne l'occasion à ces familles de rencontrer, d'échanger avec des personnes de l'association, voire même plus largement des personnes qui ne font pas partie de l'association, qui en ont entendu parler et qui ont envie simplement de rencontrer ces personnes-là. Donc je pense que c'est aussi un facteur important dans la démarche d'intégration. En tout cas, nous, on l'a conçu de cette manière-là. Et ça se passe d'une manière très très simple, il n'y a pas d'objectif autre que de permettre simplement de se parler, d'échanger, de passer un moment convivial ensemble.
Je repense au Al-Karim. Une des premières familles que nous avions rencontrées nous avait été signalée par l'opérateur social. C'était un jeune couple de Syriens avec un enfant. Quand nous les avons rencontrés, le jeune homme nous a dit « Nous sommes à Agno depuis un an. Nous n'avons jamais eu l'occasion de parler à des gens. » Donc c'est là qu'on se rend compte de la grande importance aussi de ces simples contacts.
Vous êtes à l'écoute de Phare FM Haguenau. Nous parlons de l'association Arda avec Marie Pfister et Laurent Knepfler. On ne s'imagine pas, je pense, la difficulté pour ces personnes de s'adapter à leur nouvel environnement.
Il faut s'imaginer arriver de son pays où on vivait bien. Et là, j'ai en tête le père de cette première famille que nous avons accueillie, qui a rejoint sa famille 7 mois ou 8 mois après à Agno. Il est arrivé avec une petite valise de cabine et un petit sac à dos. Et là, il repart vraiment de zéro. Puis il faut s'imaginer, dans un pays dont on ne connaît pas la langue, même pas le système d'écriture. Heureusement pour eux, beaucoup des personnes, de ces réfugiés qui arrivent, ont une formation supérieure, donc ont appris l'anglais, sont un peu familiarisés avec un autre système linguistique, un autre système graphique. Mais il faut quand même se débrouiller dans un pays à l'administration pas très simple, dans une langue qu'on ne comprend pas.
Alors, l'intégration, elle peut passer par des choses très simples. Je peux parler du même père de famille que Laurent vient d'évoquer. Nous avons participé au forum des associations l'an dernier, donc organisé par la ville de Agno. Mohanad était présent lors de ce forum. Il a fait le tour des stands et il est tombé sur le stand de l'association de volley qui a été créée il y a peu de temps sur Agno. Mohanad était entraîneur de volley en Syrie. Et à haut niveau, effectivement, il a pu échanger plus ou moins bien avec les quelques mots dont il disposait avec les responsables du club qui ont été intéressés par son expérience et lui ont proposé, du coup, s'il le voulait bien, de rejoindre le club. Il est donc depuis un an entraîneur dans ce club. Et il permet aujourd'hui à ce club de monter en puissance, puisque alors qu'il ne gagnait aucun match, aujourd'hui, et pour beaucoup grâce à lui, les équipes gagnent. Super preuve d'intégration, et c'est par là que ça passe.
En échange, le club a tout fait, par reconnaissance d'acquis, lui faire obtenir la licence française d'entraîneur.
Comment on obtient le statut de réfugié?
Il faut d'abord dire, le statut de réfugié est défini par la Convention de Genève. La Convention de Genève définit le réfugié comme une personne qui, parce qu'elle craint avec raison des persécutions dans son pays, a de bonnes raisons de ne pas y retourner. Et la CIMAD le répète toujours, l'asile n'est pas un droit des demandeurs d'asile, c'est une obligation des États. Les États, en signant la Convention de Genève, se sont engagés à protéger les personnes persécutées. Maintenant, il y a différents niveaux. Cette famille dont nous parlons a pu prouver qu'elle était poursuivie par le régime d'Assad parce que le père, déjà, était un opposant qui est mort peu après être sorti de prison des maladies qui n'avaient pas été soignées en prison. Mohanad a été persécuté. Ils se sont retrouvés entre les troupes d'Assad et Daesh. Donc, ils sont vraiment réussi à se sauver en dernière minute. Et la situation étant connue par les officiers de protection de l'OFPRA, ils ont obtenu le statut de réfugié, c'est-à-dire une carte de séjour de 10 ans, avec tous les droits d'un résident normal en France. D'autres personnes, et nous nous en occupons aussi, ne sont pas vraiment persécutées par l'État, mais se retrouvent dans une situation périlleuse à cause de la situation dans leur pays. Par exemple, un petit entrepreneur ukrainien qui habitait dans l'est de l'Ukraine, dans une région qui avait été à un moment prise militairement par les séparatistes pro-russes, qui a été mise en demeure de fournir des provisions aux séparatistes. Puis quand il a remarqué qu'il ne pouvait plus, parce qu'il allait être ruiné, a signifié aux séparatistes qu'il allait refuser de leur fournir des provisions, qui a été attaqué par ces mêmes séparatistes, laissé pour mort dans une forêt. Et j'ai des photos de cette personne sur son lit d'hôpital qui sont vraiment très explicites. Et comme il ne réussissait pas à échapper à ces menaces, il est parti. Et a fait suivre sa famille après. Entre-temps, l'État ukrainien qui a repris cette région a dit à cette même personne, « Mais dites donc, vous avez fourni des provisions aux séparatistes, donc vous avez soutenu les séparatistes, vous savez que c'est réprimé par la loi. » Et il se retrouve avec une procédure de l'État ukrainien contre lui. Il est donc entre le marteau et l'enclume. Mais ce n'est pas une situation prévue par la Convention de Genève. Donc il n'a pas droit, il n'aura certainement pas droit au statut de réfugié. Mais il existe aussi la protection subsidiaire. C'est-à-dire que l'État français reconnaît que cette personne est dans une situation qui lui interdit de retourner dans son pays, sauf à encourir des risques très graves pour sa vie ou pour sa sécurité. Et dans ce cas, la France accorde une protection, que je définis comme protection subsidiaire, qui consiste en un permis de séjour d'un an renouvelable, avec autorisation de travail. Ça permet à ces personnes de ne pas retourner dans cette situation dangereuse qu'elles ont vécue.
Oui, mais après, elles sont quand même obligées de retourner, non ?
Non, parce que le permis de séjour est renouvelable.
D'accord.
Donc tant que la situation perdure dans le pays d'origine, elles sont protégées.
Ok.
Théoriquement, il est possible que la situation s'améliorant, l'État français demande aux personnes qui bénéficient de la protection subsidiaire de retourner dans leur pays. Mais entre-temps, les enfants étaient scolarisés en France, certains ne parlent même plus la langue du pays d'origine. Je pense aux petits Syriens qui maintenant déjà parlent arabe avec des mots français, mais plus vraiment l'arabe, et qui parlent très bien le français d'ailleurs. Donc les enfants sont intégrés, les parents ont trouvé du travail, se sont intégrés aussi. Ce n'est plus la peine de les renvoyer.
Ceci dit, la menace continue à peser sur ces familles, donc ça reste malgré tout une situation difficile à vivre jusqu'à temps qu'ils obtiennent effectivement une situation pérenne en France.
Les jeunes Albanais que nous suivons, quand ils étaient à Agno, vivaient volets fermés nuit et jour parce qu'ils avaient peur. Ils avaient enfin la loi du kanun, donc de ce code d'honneur tribal qui sévit encore en Albanie. Donc ils étaient poursuivis par une menace de vendetta. Ils craignaient que cette vendetta ne les rejoigne même à Agno.
Ah oui, d'accord.
Les situations sont donc très différentes par rapport à ce droit d'asile. Si on veut donner des chiffres, aujourd'hui, un Syrien qui demande le statut de réfugié a à peu près 95% de chances de l'obtenir. Un Albanais qui demande ce statut a à peu près 5% de chances de l'obtenir.
Parce que l'Albanie est un pays réputé sûr. Donc les demandes d'asile albanaises sont traitées selon la procédure accélérée. Les demandeurs ont moins de temps pour rédiger leur dossier. Le dossier est examiné rapidement par l'OFPRA. Et en règle générale refusé, et traité tout aussi rapidement par la Cour nationale des droits d'asile.
Vous êtes à l'écoute de Phare FM Haguenau. Nous parlons de l'association Arda avec Marie Pfister et Laurent Knepfler. Est-ce que vous avez l'impression qu'on en fait assez pour tous ces gens, ou est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment une goutte dans l'océan ?
Un simple exemple. Si la France voulait accueillir proportionnellement au nombre d'habitants, autant de réfugiés que le Liban, elle devrait en accueillir 15 millions, soit plus que la population totale de la région Île-de-France. On en est très 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 loin. La France est un des pays d'Europe en bas de l'échelle de l'accueil de réfugiés.
Comment vous vous y prenez dans l'association pour sensibiliser le public ?
Alors, le deuxième volet de notre action, première mission qui apparaît dans nos statuts, c'est l'accueil et l'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés. Mais notre deuxième mission, c'est de sensibiliser le tout public, les autorités, à ce devoir d'asile qui est celui de la France et des citoyens français. Et donc, nous organisons également des manifestations qui permettent de toucher le grand public à cette situation des demandeurs d'asile. On a organisé une première manifestation le 23 septembre, qui s'est intitulée « Pas à pas en terre d'asile ». Je crois qu'on a été très heureux de cette manifestation qui a monopolisé beaucoup d'énergie. Manifestation à laquelle on a associé aussi nos partenaires associatifs, les associations caritatives. et qui nous a permis de toucher énormément de personnes, manifestations organisées au plein cœur de la ville. Puis on prépare aujourd'hui une nouvelle manifestation qui aura lieu le 23 juin, à nouveau, au cœur de la ville de Haguenau. Ce sont des manifestations de ce type-là qui sont à la fois informatives, mais aussi festives, parce que les réfugiés ne sont pas une menace, mais ils sont aussi une opportunité, une chance pour la France, qui nous paraissent importantes pour pouvoir effectivement sensibiliser le public à ces questions-là. Et puis, nous avons aussi, de manière ponctuelle, à interpeller les politiques. Il y a aujourd'hui un projet de loi qui doit réformer le droit d'asile et de l'immigration. Et donc, sur des questions de ce type-là, parce que ce projet de loi va être très défavorable aux demandeurs d'asile, nous avons aussi quelque chose à dire et nous avons à interpeller nos élus, ceux qui nous représentent, pour qu'ils n'acceptent pas que ce texte passe aujourd'hui.
D'après vous, pourquoi les gens ont peur des réfugiés ?
Alors, les gens finalement n'ont pas tellement peur des réfugiés. En tout cas, on se rend compte à travers nos actions qu'il y a finalement une grande générosité dans la population française et dans la population que nous rencontrons. Maintenant, les peurs existent. C'est déjà simplement la peur de la différence, la peur de ce qu'on ne connaît pas, la peur des chiffres qui sont annoncés et qui semblent, même si Laurent a bien démontré qu'on est bien en deçà de ce qu'on devrait faire, il y a la peur d'être submergé par ces hordes de migrants qui vont arriver pour prendre notre travail, voler nos femmes, enfin bon, tout l'imaginaire qui peut y avoir derrière effectivement cette arrivée de personnes étrangères dont on ne connaît pas la culture, dont on ne connaît pas la langue. Mais bon, j'ai surtout envie de dire que ce qui nous a frappé, c'est finalement ces discours d'accueil qu'on a pu entendre de la part d'une grande majorité des personnes. Lors de notre manifestation du 23 septembre, on craignait un petit peu d'avoir des réactions un petit peu hostiles, et finalement ça n'a absolument pas été le cas. Et un exemple de solidarité, enfin, où on s'est vraiment rendu compte que les gens soutenaient notre action, nous avons lancé une souscription pour financer un logement, pour héberger la famille ukrainienne qui ne pouvait plus être hébergée par un opérateur social. Et en l'espace, une dizaine de jours, une quinzaine de jours, on a réuni, alors Laurent, tu sauras peut-être dire plus précisément que moi, une cinquantaine de souscripteurs.
On a réuni de quoi les loger pendant presque un an. L'objectif était 8 mois, il était amplement atteint. Donc 8 mois de loyer et charges pour mettre à l'abri une famille qui, sinon, 15 jours après, dormait dans sa voiture.
Et ce qu'on entend surtout, c'est bien ce que vous faites.
Alors, on va quand même parler un peu finance. Oui. Comment vous fonctionnez ? Est-ce qu'il y a des subventions ? Et après, comment on peut aider ?
Oui. Des subventions, nous n'en avons pas. Et encore une fois, je pense que c'est un choix de manière à garder notre indépendance. Donc, comment est-ce qu'on finance ? Il y a l'adhésion de nos bénévoles, mais 10 euros la cotisation annuelle, vous imaginez bien que ça ne permet pas de payer des loyers pour des familles hébergées. Donc, on fonctionne grâce aux dons, soit des dons personnels qui nous sont versés. La souscription en est également un exemple pour un projet bien précis d'hébergement d'une famille. C'est aussi les dons qui sont réalisés par des associations, des collectivités, comme vous avez pu le faire au mois de janvier aussi, à l'occasion de votre culte commun. Ça a été vraiment une aide précieuse, je tiens encore à le redire. Ce sont des chorales qui se proposent d'organiser un concert dont la quête sera versée à notre profit. Alors, ce sont aussi des manifestations auxquelles nous participons, comme le marché aux puces auquel nous avons participé ce dimanche. On lance un appel au réseau pour collecter des objets, on fait le tri, on prépare tout ça, on se rend sur le stand à 5h du matin, on déballe. On fait les vendeurs avec plus ou moins de talent, selon les personnes, sur le stand. Et bien voilà, c'est une autre manière de financer nos actions.
Pour encore parler finances, actuellement, nous soutenons à bout de bras deux familles. Pour l'une, nous payons en plus le loyer. Ça nous met à plus de 1000 euros de dépenses par mois. Donc, ma femme qui est trésorière de l'association, elle a toujours son calendrier en tête. On en a actuellement pour tant de semaines.
D'accord.
Et dans une action comme celle-là, puisqu'on s'est engagé auprès de personnes, on ne peut pas dire du jour au lendemain, j'ai plus envie ou je peux plus.
Tout à fait. C'est une question de confiance ou comment vous faites?
On a constaté un gros potentiel de générosité dans la ville. Ça nous donne une excellente image de la ville d'ailleurs. On espère simplement que ça continuera.
Mais je crois qu'il y a effectivement, il y a la confiance, il y a l'espérance, parce que sinon, je pense qu'on ne se serait pas lancé dans cette aventure. Et les choses, pour l'instant, effectivement, se font au fur et à mesure quand elles doivent se faire.
Mais c'est une réalité, on ne peut pas fonctionner sans argent.
Vous êtes à l'écoute de Phare FM à Guenot. Nous parlons de l'association Arda avec Marie Puister et Laurent Knepfler. Alors, il y a des gens qui nous écoutent et qui ont certainement envie de vous aider. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent vous joindre? Comment faire pour pouvoir donner un don?
Ok. Alors, j'aurais peut-être déjà dire aussi qu'on a aujourd'hui un manque qu'on souhaiterait combler. Dans l'association, nous avons tous plutôt autour de la cinquantaine, voire de la soixantaine. Or, les familles que nous accueillons sont plutôt des jeunes familles. L'âge moyen va plutôt tourner autour d'une trentaine d'années. Donc, on aimerait beaucoup aujourd'hui pouvoir aussi intégrer des jeunes familles, mais aussi des jeunes lycéens, étudiants dans l'association. Donc c'est un premier appel que j'aimerais lancer aujourd'hui à travers votre radio. Appeler ces jeunes à nous rejoindre également, en fonction de leur disponibilité, hein, parce qu'on comprend bien qu'il peut y avoir la peur d'un engagement trop lourd, mais dans l'association Arda, chacun s'engage à hauteur de ses possibilités. Mm-hmm. Ça peut être simplement venir à un café rencontre pour pouvoir échanger, rencontrer ces jeunes. Donc ça, c'est une première chose. Si on parle plutôt de l'aspect financier, pour verser des dons, c'est très très simple. Il suffit de contacter l'association. Alors, je vais vous donner les coordonnées postales. Hein, donc, Association Arda, 7 rue Anselme à Haguenau. Ou alors, possibilité de nous contacter également par mail à l'adresse suivante. ARDAH, Arda 901, @gmail.com. On est aussi à la recherche, toujours, de logements pour pouvoir héberger éventuellement des familles. Idéalement, un logement qui serait mis gracieusement à disposition, parce que, vous l'avez bien compris, hein, payer un loyer, c'est quelque chose qui pèse très lourd sur les comptes de l'association. Donc l'association peut prendre en charge les charges afférentes au logement, mais idéalement, un logement mis à disposition, un logement évidemment habitable, hein, est mis à disposition sur le loyer. Et puis, bien évidemment, rejoindre l'association pour participer à toutes ces actions qui sont menées, que ce soit de l'accompagnement dans les démarches administratives, que ce soit des cours de français, que ce soit du soutien scolaire aux enfants, que ce soit participer simplement à des rencontres, inviter des familles à venir manger, les emmener se balader un petit peu dans la nature. Enfin, voilà. Les moyens d'action sont extrêmement divers et chacun peut apporter sa pierre et participer à sa manière, proposer éventuellement d'autres manières d'agir également.
Mais une des constantes de l'association, et je veux vraiment insister là-dessus, c'est chacun selon ses moyens. Tout don, modeste ou énorme, autant respectable. Toute participation, que ce soit du plein temps, n'en a pas, ou une heure par-ci par-là, est également respectable. Et il est très très important que les personnes qui rejoignent l'association ne craignent pas d'être un jour submergées par la tâche. Nous sommes nombreux et c'est une richesse, ça permet aussi de dire à un moment, cette semaine je ne peux pas. Et de le dire la conscience tranquille, parce qu'on sait que quelqu'un d'autre suppliera. Là, c'est une grande richesse de l'association, et l'appel à adhésion, l'appel à soutien, vise aussi à maintenir cette richesse, éviter que quelqu'un se sente surchargé.
Est-ce qu'on peut rappeler la date de votre manifestation qui aura lieu bientôt?
Oui, alors le 23 juin 2018, au cœur de la ville de Haguenau, manifestation qui se déroulera entre 14h et 18h. Donc venez nous rejoindre nombreux, il se passera des choses, il y aura un flash mob, il y aura de la musique, il y aura des mises en action pour tous ceux qui souhaitent participer. Et puis il y aura très probablement, hein, le programme n'est pas encore complètement défini, voilà, un campement qui se tiendra au cœur de la ville, où on pourra avoir des informations, échanger avec les personnes accueillies et avec les membres des différentes associations qui seront présentes ce jour-là.
Madame Pfister, Monsieur Knepfler, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous de nous avoir accueillis aujourd'hui.
C'était pour Faire Effet Haguenau, Marie Pfister et Laurent Knepfler. Ils nous ont parlé de l'association Arda. Vous souhaitez les aider? Vous pouvez écrire à Association Arda, 7 rue Anselme, 67 500 Haguenau, ou par mail ardah901@gmail.com. ardah901@gmail.com.